Livres, BD,
films, musique,
jeux, spectacles.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Chaudron. L'idée de cette émission m'est venue après avoir regardé le film « Le consentement ». J'avais lu le livre de Vanessa Springora au titre identique, mais quand j'ai vu le film incroyablement bien interprété par Jean-Paul Rouve, Kim Higelin et Laetitia Casta, un film dérangeant qui n'élude pas le sujet loin s'en faut, cela m'a renvoyé à la question de l'enfance. La mienne d'abord, à une époque déjà ancienne, à l'enfance d'aujourd'hui, en passant par la période post-68arde et toutes sortes de courants éducatifs passés ou présents. Bref, un sujet tellement vaste qu'il y a de quoi se perdre et partir dans plein de directions. Je vais donc juste vous dire quelques mots sur l'histoire de Vanessa Springora. Le livre, donc, qui s'appelle également « Le consentement », est autobiographique. Grande lectrice, elle n'a que 13 ans quand, dans un dîner, elle rencontre Gabriel Matzneff, la cinquantaine, écrivain connu et reconnu et chasseur de jeunes garçons ou jeunes filles, en fait un pédocriminel, mais qui à l'époque, en 1985, s'autorise, au vu et au su de tout le monde, à les séduire à des fins de relations sexuelles et d'inspiration de production littéraire, et à les engluer dans une véritable emprise dont, entre autres, Vanessa Springora sera victime. Mais toutefois, les choses sont ambiguës. L'autrice dit « Dès que j'ai mordu à l'hameçon, j'ai… » Alors, elle n'emploie jamais son vrai nom, elle dit toujours « j'ai ».« J'ai ne perd pas une minute, il me guette dans la rue, quadrille mon quartier, nous échangeons quelques mots et je repars transi d'amour. » Tout ça, avec l'approbation molle de sa mère et le regard indulgent de l'entourage et du monde littéraire. Vanessa Springora ajoute « Tout autre individu qui publierait la description de ses ébats avec un adolescent philippin ou se vanterait de sa collection de maîtresses de 14 ans serait immédiatement considéré comme un criminel. La littérature excuse-t-elle tout ? » demande-t-elle. Eh bien, bien sûr que non. Et au fait, ça pose la question de la majorité sexuelle. Annoncée comme étant à 15 ans pour les filles comme pour les garçons, elle n'a pas d'existence juridique. Alors, que dit la loi ? Un adulte n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 15 ans. Après 15 ans, s'il est d'accord, un ou une adolescente peut avoir des relations sexuelles avec un adulte, sauf si ce dernier est l'un de ses ascendants, parents, grands-parents, ou s'il est amené à s'occuper de lui ou d'elle, beaux-parents, professeurs, moniteurs sportifs, animateurs. Et voilà, j'étais partie pour vous parler de l'enfance et me voici à parler de majorité sexuelle. Mais alors, c'est quoi un enfant ? En matière de droit, l'Organisation mondiale de la santé définit l'enfance comme la période de la vie humaine allant de la naissance à 18 ans. Oui, d'accord, mais quand même, entre les bébés, les petites maternelles, les primaires, les collégiens et les jeunes adultes, ça ratisse large. Eh bien, parce que ici, on parle des droits. Et donc, à ce propos, en 1924, la Société des Nations adopte la Déclaration de Genève, un texte qui reconnaît et affirme pour la première fois l'existence de droits spécifiques aux enfants, mais surtout la responsabilité des adultes à leur égard. Ça a évolué. Le 20 novembre 1959, la Déclaration des droits de l'enfant est adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies à l'unanimité de ses 78 pays membres. Puis, plus tard, la Convention internationale des droits de l'enfant est un traité international adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 et ratifié par 196 États. Aujourd'hui, seuls les États-Unis manquent à l'appel. Cette convention énonce les droits fondamentaux des enfants et est juridiquement contraignante pour les États signataires. Ces derniers s'engagent à publier régulièrement des rapports qui permettent au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies de contrôler la mise en œuvre effective du traité. Bien joli tout ça, mais je pense que si on commence à regarder ce qui se passe à travers le monde dans ces périodes de guerre, de misère, de blocus, on est très loin du compte. Et même en France, ce n'est pas la panacée. Rappelons qu'en France, l'ordonnance du 2 février 1945 pose les principes de la protection de l'enfance. Or, le 29 janvier 2025, la défenseure des droits, Claire Hédon, rend public le constat de la dégradation de plus en plus préoccupante de la protection de l'enfance, qui porte atteinte à l'intérêt supérieur et aux droits fondamentaux des enfants. Claire Hédon met en exergue l'examen de nombreuses situations individuelles dont le défenseur des droits est saisi depuis des années. Des travailleurs sociaux, professionnels du soin, juges des enfants ont attiré l'attention de l'institution sur une dégradation de la protection de l'enfance dans leur département et notamment sur la hausse des mesures judiciaires non exécutées. Des enfants n'ont pas bénéficié de l'accompagnement et de la protection auxquels ils peuvent prétendre, et cela au détriment de leurs droits à la santé, à l'éducation, à la mise à l'abri, à la protection contre les violences. L'État, garant du respect de la Convention internationale, porte une responsabilité majeure. Cela questionne la considération que notre société porte à la protection de l'enfance et aux politiques de lutte contre la pauvreté et au soutien à la parentalité. Mais rappelons que si l'enfant a des droits, il a aussi des devoirs. Aujourd'hui, la responsabilité pénale est à 13 ans. On parle ici de responsabilité pénale et non de majorité pénale, car l'enfant est supposé être capable de discernement. Et si c'est le cas, l'enfant peut être condamné et envoyé dans un centre éducatif fermé. Bon, dans mon ancienne vie professionnelle, j'ai vu des jeunes de 16 ans arrêtés pour vol se retrouver en prison pour adultes. Je vous laisse imaginer les dégâts. Il y aurait beaucoup à dire sur l'enfance, la santé physique mais aussi psychique, les modes éducatifs, l'instruction, les interactions, la parentalité, toutes les expériences pédagogiques passées ou présentes, ou bien encore évoquer la nocivité des écrans dans le développement des enfants. Le sujet est énorme, car oui, l'enfance n'est pas toujours synonyme de pureté et de bienveillance, comme par exemple être enfant à Gaza en ce moment. Pour sortir de ces événements mortifères, je vais donc vous parler d'ouvrages qui offrent un peu de douceur et d'espoir.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, nous, elle est maman. J'en sais rien, viens donne-moi la main. Pour aller où, j'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Dis Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens donne-moi la main.
Alors, dis donc Léo, toi qui es toujours là pour cette émission, et je te remercie, tu aurais un beau souvenir d'enfance?
Un beau souvenir d'enfance, j'en ai très peu en vrai, mais parce que j'ai très peu de souvenirs en général. Mais j'en ai un dans un petit hameau où on habitait avec ma famille en Lozère. On avait une balade habituelle. Je ne pourrais pas dire si c'est un beau souvenir, mais c'est un souvenir que j'aime bien. Et dans cette balade, on commençait à longer la route et à un moment, on arrivait dans un côté un peu plus près chemin de terre. Et il y avait toujours cet arbre qu'on avait surnommé l'arbre penché. Et ça faisait partie, et c'était un peu une habitude de cette balade, c'est on va à l'arbre penché. Et on passait dans cette balade 10 minutes à grimper, à tourner autour de l'arbre penché, parce que cet arbre avait poussé de façon penchée et c'était devenu, je sais pas, un genre de totem de cette balade régulière, habituelle.
Eh ben merci, c'est super, les souvenirs d'enfance. Eh ben moi, je vais vous parler d'abord de deux BD. Alors, la première, c'est France, de Joala Elgren, aux éditions Cambourakis. Ça date de 2013. Joanna Elgren est suédoise, née en 1981. Elle est illustratrice de magazines à la fois suédois, italien, finlandais et français. Elle écrit d'ailleurs directement en français et elle a reçu plusieurs prix pour son œuvre. France est une BD. En fait, il s'agit de 3 volumes réunis en un seul, donc une BD qui parle en douceur de la vie parfois compliquée ou difficile d'une petite fille, mais aussi de sa tante, et où la finesse rivalise avec la force des personnages. Mais pour en parler, je vais laisser la parole à Dominique A., qui en a vraiment dit du bien. Voici ce qu'il dit. France est de fait magnifique et incontournable. Pourquoi ? Parce que le trait crayonné, splendide, délicat, au point qu'un coup de vent pourrait le faire pencher, mais non. Et si l'idée d'un coup de vent qui fait pencher un trait vous semble étrange, sachez que je vois très bien ce que j'entends par là, ou demandez à votre corde à linge. Deuxièmement, la manière dont l'histoire s'éclaire sans renoncer à ses zones d'ombre et les dialogues d'une justesse rarissime en bande dessinée. Dans France, les mots claquent, sans renoncer, en un tour de passe-passe surprenant à la douceur. C'est Bergman, Dreyer, Bresson. C'est France. Et si vous n'allez pas voir de quoi il retourne, vous mourrez idiot. Bon, que dire de plus après ça ? Juste que le graphisme est noir et blanc, mais avec des nuances de gris qui l'adoucit. Car rien n'est simple dans cette histoire qui convoque des personnages qui subissent et cherchent à se libérer des préjugés. Il y a de la vie, de l'humour, de la force, en particulier cette gamine, France. Le physique des personnages offre un mélange de traits fins et presque enfantins et en même temps une grande expressivité. Il y a parfois des images sans texte qui sont très parlantes. Il y a aussi des petits dialogues de tous les jours et puis des conversations plus profondes qui questionnent. Car il y a des absences, il y a des présences, des générations qui se croisent. Et dans ce récit, il y a surtout la présence de cette enfant lumineuse. C'est vraiment beau, fort et subtil. Un beau cadeau à faire. La deuxième BD dont je vais vous parler, c'est Les grands espaces de Catherine Meurice aux éditions d'Argo qui date de 2018. Catherine Meurice est née en 1980. Elle est illustratrice et autrice de BD. Elle a travaillé à Charlie Hebdo de 2005 à 2016. Arrivée en retard à la conférence de presse de Charlie, elle échappe au massacre du 7 janvier 2015 et en 2016, elle écrit une BD, La légèreté. Elle dit « La légèreté, c'est tout ce que j'ai perdu le 7 janvier et que j'essaie de retrouver. » La BD Les grands espaces est vraiment une ode à l'enfance. Une enfance faite de douceur, de nature, de créativité. Lorsqu'elle a 7 ans, les parents de Catherine quittent la ville pour aller vivre dans une ferme abandonnée qu'ils ont décidé de rénover. Les filles, la campagne sera votre chance, ont dit les parents. Et c'est ce qu'on ressent tout au long de la BD. Une chance d'avoir eu ce lieu de vie, cette maison qui se retape, le jardin qui se crée, les arbres qui se plantent, une vie où l'on respire et on s'amuse de tout et de rien, où les deux sœurs semblent vraiment vivre dans une belle harmonie. C'est tranquille, c'est chaleureux. Puis il y a de l'humour. Hors du jardin, il y a le tumulte du monde, peut-on lire. Et effectivement, il y a parfois un décalage avec la vie tranquille de cette famille et l'extérieur, pas toujours très bio ni très intelligent. On voit par exemple la mère se précipiter à ramasser son linge en disant « Ils arrosent le maïs avec du sang de bête bourré d'antibiotiques. C'est beau l'agriculture du XXe siècle. » Et ça se moque un peu. On voit par exemple la présidente de région dont le discours se résume à déclarer le vin d'honneur ouvert. Et puis également la cohorte des festivals, du festival du Cabicou, le festival des battages, le festival des quads, le festival des Doriforts, enfin voilà, on en... etc., etc. Bref, c'est beau, c'est doux, c'est drôle. On aimerait être accueilli chez ces gens et c'est probablement dans une telle atmosphère de construction et de créativité qu'on imagine que ces deux enfants, Catherine et sa sœur, ont puisé toute la richesse et la confiance en soi qui les a conduits à l'âge adulte. Le graphisme est très beau et à l'image de cette belle vie qui se construit.
Parmi les épines à la file indienne vont les enfants sages.
Ils font des ronds, des zigzags parmi les chardons et la mauvaise graine des amours en cage.
Et le long des palissades des orties féroces comme les croque-mitaines des livres d'images.
Ils se lèvent sur leur petite guibole, bien loin de ce triste guignol.
Là qu'ils imaginent, voilà qu'ils s'envolent
vers le jardin du bonheur, plus loin, là-bas.
Gribouillis d'avions que le vent ramène avec les orages.
Ils ont des rêves en jet-lag, arc-en-ciel rouillé et des fumigènes dans les paysages.
Dans leur tête ça fait des vagues, ces drôles de feuilles mortes en polystyrène. Un vol d'emballage.
Alors il s'évade, il décolle
de cette ferraille qui dégringole.
Par-dessus les murs et les herbes folles,
vers le jardin.
Des blagues, pourquoi tant de larmes,
pourquoi tant de peine quand on n'a pas l'âge.
Tigre, 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 dac, tire, tire, tire,
et tire la laine, font les enfants sages.
Et dans ce monde à la schlague,
gendarme ou voleur, oh et capitaine,
ils ont tous un gage.
Dis-moi, Jacqueline, tu m'as demandé à la dernière chanson quel était un de mes heureux souvenirs d'enfance. Mais raconte-moi aussi un des tiens.
Alors moi, c'est vieux, hein, c'est très vieux, mais c'est un beau souvenir. Moi, je suis originaire du Finistère et j'avais une tante et un oncle qui habitaient au Havre et qui venaient en vacances dans le Nord Finistère, sur la côte, et qui donc avaient déjà deux enfants plus âgés que moi et ma sœur et deux enfants plus jeunes, des jumeaux. Donc quand même, ça faisait du monde, hein. Et elle nous invitait, ma sœur et moi, à passer une semaine avec eux. Et ça, alors d'abord, ma tante, elle me fascinait. Je la trouvais grande, belle. Mon oncle, il avait un gros accent du Havre avec sa pipe. Ils avaient une énorme voiture, une Ariane. Ils nous mettaient tous là-dedans. Et alors, avec mes cousins, on s'amusait, on jouait, on dansait le twist. Donc, ça vous situe un peu l'époque. On faisait des concours de bouffe, celui qui mangerait le plus. Et le truc le plus fascinant, parce que j'avais une tante qui s'enquiquinait pas trop, et elle avait raison avec toute cette marmaille, elle nous mettait en rang le matin, elle prenait un gant de toilette, elle nous lavait la figure en série. Et ça me fascinait. J'aurais jamais supporté ça chez moi. Mais là, je trouvais ça trop drôle. C'était la colonie de vacances. Et c'est vraiment des très bons souvenirs. Alors maintenant, je vais vous parler d'un roman. Un roman sur l'enfance aussi. L'enfant multiple de André Chédid, aux éditions Flammarion, et qui date de 1989. André Chédid est né en 1920 et décédé en 2011. C'est une femme de lettres, elle est poétesse, elle est franco-égyptienne, et c'est la mère de Louis Chédid, musicien et chanteur, et grand-mère, entre autres, de Mathieu Chédid. L'enfant multiple, c'est un petit livre de 155 pages qui se lit facilement et nous émerge dans une belle rencontre. Alors, voici l'histoire. Fin des années 80, Maxime est forain, propriétaire d'un manège à Paris depuis 5 ans. Cela fait 6 mois qu'il se laisse aller et que son manège périclite. Un matin, il tombe sur un enfant, amputé d'un bras, couché dans son manège. Cet enfant, c'est Omar Jo, 12 ans, orphelin, dont les parents sont morts pendant la guerre au Liban à cause d'une voiture piégée. À la suite de cet attentat, Omar Jo est accueilli à Paris par son oncle et sa tante. Omar Jo propose son aide à Maxime afin de rendre le manège plus attractif. Malgré son seul bras, l'enfant se démène, améliore le manège et l'accueil des enfants. Petit extrait. Alors, demanda Omar Jo, qu'est-ce que tu dis de ma proposition ? La mémoire toujours encombrée du souvenir de ses propres billes, le forain empocha celle au cœur torsadé qu'il tenait encore entre ses doigts. Quelle proposition ? Tu m'utilises sur ton manège ? Évitant de répondre, Maxime cherchait à en savoir plus sur l'étrange garnement. Et il montra du doigt le moignon, puis le renfoncement au sommet de sa joue. Qu'est-ce qui t'a fait ça ? Un accident, reprit l'enfant, peu disposé à des confidences. Tu fais partie d'une bande ? Là-bas aussi, il existait des bandes, mobiles, dangereuses, toutes armées, des groupes insaisissables, impossibles à contrôler. Moi, je ne fais partie de rien. Il avait une façon bien à lui de relever la tête, sans arrogance, mais comme pour définir son territoire, pour en fixer l'infranchissable limite. Si je t'emploie, il faut quand même que je sache d'où tu viens. Je ne te demande pas d'où tu viens, répliqua l'enfant. Il dévisagea son interlocuteur, s'attardant comme chaque fois sur les yeux, cherchant le fond du regard. Ajouta, un homme qui aime son manège, je n'ai pas besoin de savoir d'où il vient, il est de ma famille. De ta famille ? Où est-ce que tu vas chercher ça ? Pas la famille du sang, mais l'autre. Parfois, ça compte beaucoup plus. On peut la choisir. Tu veux dire que tu m'as choisi ? Oui, maintenant je te choisis. Et il faudrait que ce soit réciproque, tu ne penses pas ? Ça le sera. Les derniers temps avaient été si ternes, si déprimants. Le forain prit subitement plaisir à cet échange provocant. Il se courba en deux, salua avec drôlerie les bahissants gamins. Très flatté de votre choix. Sincèrement, très sincèrement, je vous en remercie, jeune homme. On ne peut échapper dans ce roman à l'évocation de la guerre civile au Liban qui dura de 1975 à 1990. Mais elle n'est pas omniprésente et sert surtout à montrer la folie de n'importe quelle guerre et comment Omar Jo arrive non pas à oublier, mais à rebondir dans sa nouvelle vie en France. Il y a des réminiscences, comme cet extrait. Malgré la désolation des lieux, Omar Jo allait éprouver, grâce à cette eau, quelques moments d'euphorie. Filtrant tantôt l'orifice du tuyau, tantôt le libérant, il en faisait jaillir un mince filet ou un torrent, un ruisseau ou une cascade. Il se plut à faire revivre l'herbe, à ranimer les feuillages en berne, à inonder les racines stagnantes. Il pourchassa la poussière qui recouvrait les marbres d'un linceul noirâtre, faisant affleurer leurs veines et leurs vernis. Les fleurs artificielles scintillèrent, les flaques de boue se changèrent en étangs, quelques corbeaux s'y précipitèrent, mouillant leurs ailes, y barbotant avec délice. Faisant fi de toute épargne, Omar Jo prodigua à cette terre aride et meurtrie des flots liquides qu'elle résorbait aussitôt. Participant à cette soif, à ce désir, il s'imbiba la face, s'aspergea la tête et le cou, s'inonda le corps. Puis, à pleine bouche, il but de larges goulets de cette eau effervescente. Un peu plus tard, l'enfant n'eut pas de mal à reconnaître le carré de marbre avec des initiales d'Omar et d'Annette sous 1987, date de leur éternelle union. Omar Jo filtra l'eau avec ses doigts pour qu'elle s'écoule en pluie fine, en caresse, sur les deux noms entrelacés. Finalement, il s'agenouilla, posa sa joue sur la dalle. Sa face était trempée d'eau douce, mélangée à l'eau plus salée des larmes. Et oui, il est devant la tombe de ses parents. Les dialogues entre le forain et l'enfant sont simples et drôles. D'autres personnages secondaires émaillent le récit d'histoires tout aussi singulières et intéressantes. Au fond, une belle histoire de résilience, une histoire d'enfant plein d'énergie. Alors, une fois passés les BD et le roman, je vais vous parler d'un document. Fille, garçon, même éducation, guide de parentalité féministe de 0 à 3 ans, de Pila Intika et Elisa Rigoulet aux éditions Poche Marabout. J'aurais aimé lire ce petit livre il y a fort longtemps, encore que. Concernant mon expérience de la maternité, je me suis trouvée à une période charnière entre l'éducation rigide des années 50-60 et l'afflux maximal d'infos via tous les canaux d'aujourd'hui. En fait, fin des années 80, nous parents avons fait comme bon nous semblait, sans être vraiment au taquet, mais jouant de l'intuition et de l'improvisation. Et comme nul n'est parfait, eh bien, en roue libre, on a fait comme on a pu. Car je vois aujourd'hui la vie des jeunes parents formatée par tous les bons conseils, tous azimuts. Bon, certes, tout n'est pas à jeter, et j'avoue, je découvre des choses que je ne savais pas, mais quand même, il y a de l'injonction, et ça a parfois des petits relents de culpabilisation. Et donc ce petit manuel, car il s'agit bien de ça, concocté par Pila Intika, autrice et journaliste finlandaise, et Elisa Rigoulet, autrice française, amène de la sérénité et de l'humour dans ce que, bien évidemment, est un événement majeur, à savoir l'arrivée d'un ou d'une bébé. C'est d'autant plus intéressant que les références sont doubles et on voit que les choses ne se passent pas de la même façon en Finlande et en France ou même en Suède où alors le top du top, les parents ont droit à 6 mois de congé parental pour la mère, 6 mois de congé parental obligatoire pour le père et 6 mois ensuite à se partager, le tout rémunéré à 70% du salaire. Eh ben en France, on est vraiment le parent pauvre, hein, c'est le cas de le dire. Le style est alerte, drôle et percutant. Petit exemple. Bienvenue dans l'univers de la culpabilité. Être mère aujourd'hui, c'est le rôle le plus psychologiquement épuisant du monde. Non, non, ne ris pas, ce n'est pas une blague. Souvent, c'est discrètement de ta faute. Peu importe le sujet, simplement parce que tu es devenue mère. Que ce soit parce que tu n'as pas fait ou ce que tu as fait, parce que tu n'es pas assez comme ci ou trop comme ça, parce que tu ne le sens pas ou que tu le sens trop, justement, le résultat est toujours le même. Être mère, c'est se sentir coupable. Et ça, en revanche, ce n'est pas de ta faute. Alors, deuxième petit extrait. Ah, un bon père, c'est quoi ? Si être une bonne mère est un concept truffé d'injonctions aussi contradictoires les unes que les autres et qui vise seulement à te faire sentir souvent, toujours, dans la mauvaise catégorie, que signifie être un bon père ? Mère et père se construisent-ils socialement sur des attentes différentes ? Être un bon parent ne serait-il pas finalement être bon avant d'être parent ? Un rôle dont les objectifs sont à nouveau définis par l'efficacité et la performance ? Nous avons rencontré Charles Uto, auteur de, écoutez bien, les 9 derniers mois de ta vie de petit con, aux arènes 2016, petit manifeste de préparation à la paternité, où il aborde à plusieurs et entre hommes la question de la sexualité masculine et surtout père de Léon, 4 ans. On parle beaucoup aujourd'hui du mythe du parent parfait, de la pression sociale et professionnelle qui en est à l'origine. En quoi être un bon parent est-il un défi ? Est-il nouveau selon toi ? Réponse. On vit dans une société de performance. Que ce soit dans notre travail ou dans notre vie professionnelle, on tombe rapidement dans le piège de vouloir plus, de vouloir être au top et on fait souvent l'erreur de mépriser ceux qui veulent juste être bien. On se met la pression. Je pense que ça se répercute sur nos principes d'éducation mais aussi sur nos enfants. Il faut qu'il, qu'elle mange bio, il faut qu'il, qu'elle fasse pas de colère, il faut pas qu'il, qu'elle voit d'écran avant 2 ans. Bon, alors ça par contre, ouais, je suis d'accord. On ne leur demande pas d'être imaginative, mais calme, responsable, pas têtu, autonome, mais patient. Il faut qu'il, qu'elle fasse de la musique, qu'il, qu'elle peine, qu'il, qu'elle sache nager, qu'il, qu'elle commence à coder à 4 ans. Ça devient infernal. On ne sait plus non plus comment définir un bon parent. Est-ce qu'il est ouvert à tout, autoritaire, marrant, sérieux, actif, intellectuel ? Du coup, on ne sait plus se juger soi-même. C'est plus facile de savoir si t'es un bon coup en regardant tes stats Tinder que de savoir si t'es un bon parent. C'est triste. Alors, beaucoup de choses intéressantes. Je ne vais pas tout vous lire de ce petit bouquin. Bon, en plus, il ne coûte pas vraiment pas très cher. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'analyse de la langue ou des langues, comme par exemple le français, qui est une langue très genrée et qui véhicule beaucoup de choses. Encore un petit extrait. Alors, c'est un tout petit article qui s'appelle « Déduire et parler ». Alors, je vais essayer de lire pas trop vite, parce que c'est vrai qu'avec les « il », « elle », ça prend plus de temps. Alors, entendre. Il, elle, le fait très bien, puisque nous savons que, dès le 3e trimestre de grossesse, le fœtus développe des capacités auditives. Mais c'est le comprendre qui nous intéresse ici, car s'il est facile de faire la différence entre entendre et ne pas entendre, ce que la jeune enfant comprend de ce qu'il, elle, entend est plus subtil à déceler. On a longtemps pensé que l'acquisition du langage ne démarrait pas avant 1 ou 2 ans. Pourquoi ? Parce que, comme son nom latin l'indique, l'enfant nouveau-né est infans. Il ne parle pas et ne laisse donc rien paraître de ses talents d'analyste, explique Stanislas Dehaene, psychologue cognitif, dans « Apprendre, les talents du cerveau, le défi des machines ». Et pourtant, c'est un as des statistiques et des probabilités. D'abord, le bébé range dès la naissance dans des catégories distinctes la plupart des voyelles et des consonnes, puis se débarrasse de ce qui ne lui servira pas. Par exemple, pas besoin en anglais de faire la distinction entre U et U, ni en japonais de s'embarrasser avec les R et les L, explique Stanislas Dehaene. Et c'est une fois ce premier petit ménage fait qu'apparaissent les mots. Mais comment les emmagasine-t-il ? Ou les emmagasine-t-elle ? Par la musique, en détectant les variations de prosodie, quand la voix monte ou descend, et donc les césures entre les mots et les phrases. Déduction, puis probabilité. Un autre mécanisme consiste à identifier quels groupes de sons se suivent fréquemment. Là encore, le bébé se comporte comme un ou une statisticienne. Elle s'aperçoit, par exemple, que la syllabe « bi » est souvent suivie de « be » et elle-même suivie de « ron ». Un rapide calcul de probabilité lui montre que cela ne peut pas être le fruit du hasard. Ces syllabes se suivent avec une probabilité trop élevée. Elles doivent former un mot. Biberon. Waouh ! T'as du mal à y croire quand tu la regardes. Et pourtant, ajoute à cela les déterminants et les pronoms et dis-toi que le petit énergumène comprend qu'après « je », il y a souvent un verbe et après « le », un nom. Bon, parfois, il, elle se plante. Le processus n'est pas exact. Ça donne des aberrations comme « n'avion » ou comme disait mon fils « tu peux me t'aider ». Mais tu saisis pourquoi on te dit de te planquer avec ton merde et ton putain, qu'ils, elles, n'en déduisent pas trop vite des règles. Bon, très drôle, hein, ce petit bouquin. J'ai vraiment adoré, même si je ne suis absolument pas en âge d'avoir des enfants, c'est déjà fait. Mais c'est amusant, c'est réconfortant, c'est dédramatisant. Et ça place quand même, entre les blagues, des références de professionnels. Et ça fait réfléchir à tout ce qu'on peut influer très tôt dans la vie de l'enfant. Franchement, à savourer à tout âge, parents, grands-parents, tantes, cousins, professionnels, et à discuter aussi. Alors, ça, c'était pour les tout-petits, de 0 à 3 ans. Et dernière BD, en fait, parce que c'est un documentaire, mais sous forme de BD, c'est « Ma vie d'enfant, des clés pour accompagner mon enfant de 3 à 10 ans ». D'Héloïse Junier et Christophe Bess aux éditions d'Uno Graphique. Héloïse Junier est psychologue et Christophe Bess dessinateur. Il a fait des albums pour la jeunesse et il est père et grand-père. Avant cette BD, il existe une BD, Ma vie de bébé de 0 à 3 ans, des mêmes auteurs et autrices. Mais comme je viens de parler de cette période avec l'ouvrage précédent, je vais donc vous parler de cette période de 3 à 10 ans. C'est vraiment une BD sympathique et instructive, peut-être plus théorique que l'ouvrage précédent, mais le dessin est très expressif. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est Noah, l'enfant qui nous explique sa vie de petit garçon et s'adresse donc aux parents, mais aussi aux professionnels de l'enfance. Voilà, donc des petits documents vraiment sympas et voilà. Qui ont quand même un petit intérêt informatif. Alors, je ne vais pas tout à fait conclure encore. Je vais juste vous parler, mais rapidement, d'un livre que j'ai trouvé à la médiathèque qui s'appelle « Palo Alto à l'école » de Michel Vidal et Teresa Garcia Rivera. Alors là, pour le coup, je ne suis pas sûre que tout le monde soit branché sur ça, mais l'école de Palo Alto, c'est une école qui s'est inspirée de ce qu'on appelle la systémie et qui effectivement analyse le rapport de l'enfant au monde, de l'enfant ou de l'ado au monde, d'une façon justement systémique et qui est, ma foi, intéressante parce que souvent, on a des réponses complètement inappropriées à des troubles ou à des difficultés. Là, ça s'adresse beaucoup aux enseignants, mais ça peut s'adresser aussi aux parents ou aux autres professionnels. C'est un bouquin intéressant, voilà. S'il y en a qui veulent jeter un coup d'œil, il est à la médiathèque de Florac. Autre petite annexe, je vais vous parler rapidement de L'Empaillé. Alors, c'est le 17 du printemps 2025. Alors, d'une part, il est intéressant parce que j'avais parlé dans une séance précédente des migrants et du cauchemar de l'OQTF. Et il y a un dossier très riche sur la question. Et pour ceux qui nous concernent, il y a un article sur le Collège École Démocratique du Tarn. Voilà, pareil, une approche originale et intéressante. Et dernière référence, on va dire, journalistique, dans l'âge de fer, je sais, je me répète, hein, j'en parle souvent, dans l'âge de fer du mois de mai 2025, il y a un article « Libérer nos petites camarades ». Alors, c'est quoi cet article ? C'est assez intéressant. Alors, on va dire que ça s'adresse surtout aux citadins. Mais voilà, ça montre qu'en fait, les enfants sont de plus en plus cantonnés à l'intérieur. Et qu'on leur laisse de moins en moins d'espace à l'extérieur. Je vais juste vous lire un tout petit bout. Voilà. Les marmots devraient-ils se contenter de ces misérables petits refuges ? Le géographe Guillaume Faburel explique que depuis plusieurs décennies, le néolibéralisme urbain guide la politique de toutes les grandes métropoles mondiales. Dans cette logique, chaque parcelle doit directement ou indirectement accroître la rente du capital. Les terrains sont rares et on ne peut satisfaire tout le monde. Or, 10 rires de gamins jouant au ballon rapportent moins que 10 appartements à louer, que 10 places de parking rodatées. Friches, terrains vagues, parcelles abandonnées, autant d'espaces pour s'ébrouer et jouer librement qui ont été engloutis par la frénésie du comblement et de la rente. Et assez intéressant aussi, alors que je ne me trompe pas, ouais, c'est là. Donc, un médecin britannique a étudié les habitudes de déplacement des gamins de 8 ans au sein d'une même famille anglaise sur plusieurs générations. En 1926, les jeunes pousses pouvaient parcourir jusqu'à 9 km à pied sans leurs parents pour aller pêcher dans leurs endroits favoris. En 2007, les petits derniers de la lignée ne s'éloignaient pas à plus de 300 mètres de leur logement. Et cette tendance a depuis été confirmée par diverses études. Au fil des décennies, les mômes ont de plus en plus été confinés à la maison. Dans les années 2000, le terrain était donc prêt pour l'invasion du numérique qui s'est finalement empêché d'une population déjà captive. Au point que, en 2016, les jeunes États-Unis passent moins de temps dehors, à peine une heure, écoutez bien, que les détenus d'une prison de haute sécurité de l'Indiana qui bénéficient de 2 heures de promenade quotidienne. Bon voilà, ça laisse un peu à réfléchir. Eh bien voilà, cette émission se termine. Et ben à une prochaine fois. Puis encore une fois, merci Léo.
Et pleure, ma planète. Elle sent sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur, qu'ils s'en foutent.
Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures?
La terre en aura le bonheur, point, c'est tout.
Aujourd'hui j'ai de la chance, je suis encore là. Je vais pouvoir voir le ciel encore une fois. L'air pur ici aussi se fait si rare que même les clébards disent qu'il y en a marre de respirer cette merde à plein poumon. Tout ça pour qu'un petit con gagne des millions. Tu sais que notre vie de chien ne suffit bien. Pas besoin de choper le cancer des êtres humains. Nous paierons cher sans doute votre insolence. Vous jouez avec ce monde par négligence. Les frontières de vos cartes n'y feront rien. Cette terre n'est pas à nous, vous le saurez bien.
Elle pleure, elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur qu'ils s'en foutent. La terre en a ras-le-bol,
comme nous.
Elle pleure, elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur qu'ils s'en foutent.
Je suis sa mère. Vous déchaînerez mes nerfs, je serai guère. Qu'elle vole vos maisons au-delà des mers. Vous donnerez des noms à mes colères. Vous êtes la raison de vos prières. Et vous aurez raison de vos cimetières. Qu'elle jaillisse les eaux sur votre espèce. N'aurez plus conscience de votre petitesse. Je ferai de vos villes ce bel enfer. Plus chaleureuse encore que le paradis. Vous tremblerez de peur dans vos demeures, car l'homme a fait de l'homme cette chose sans vie.
Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète. Elle sent que sa fin est proche et ça la rend folle. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous. Ça la rend folle. Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils sont fous.